Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le représentant de la CEDEAO Mali, Amidou Boly, déclaré persona non grata par les autorités maliennes. Celles-ci ont donné ce lundi 72 heures au diplomate burkinabé pour quitter le territoire national. 72 heures, il est reproché à M. Boly des activités hostiles à la transition. Quelles peuvent être les conséquences de cette décision des autorités maliennes sur les relations entre le Mali et la CEDEAO? Quel impact sur le processus de transition en cours dans le pays? Les accusations à l'encontre du représentant de la CEDEAO peuvent-elles ternir l'image de la communauté? On en parle avec nos invités, Bakabini Keïta, analyste politique, Abdoulaye Doucouré, juriste, et Boubacar Bokoum, analyste politique. Je suis Sekou Gadjigo, cette émission est réalisée en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, je voudrais vous demander quelle lecture faites-vous de cette expulsion du représentant de la CEDEAO du Mali. On commence par Bakabini.
Bon, écoutez, je remercie Sidio Tamani pour m'avoir invité à cette émission, ce forum. Je remercie aussi les collègues, les amis qui sont avec moi sur le plateau et puis les auditeurs. Maintenant, par rapport à l'expulsion, la question, si vous voulez rafraîchir ma mémoire.
Oui, quelle lecture? Comment vous analysez cette expulsion?
Mais écoutez, si on lit la lettre des autorités, il est quand même clair que on pouvait s'attendre effectivement à l'expulsion. Puisque, bon, même si je pense que les 72 heures vont prendre fin à partir des horaires, donc je pense qu'on pouvait s'attendre bien à ça, puisqu'il y a eu des avertissements. Je crois adressés au chef hiérarchique, à la hiérarchie donc, de M. Boly. Donc, je pense qu'une personne avertie en vaut deux. Donc, si ces avertissements n'ont rien servi, je pense qu'on ne pouvait que s'attendre à ça. Quoi.
Alors, Boubacar Bokoum, vous vous y attendiez également?
Mais écoutez, dans le fond, je suis entièrement d'accord qu'en tant qu'État souverain, il est tout à fait normal que quand il y a des injections diplomatiques à ce niveau, M. Boly aurait dû se plier à ces injections et d'accepter d'être dans la courtoisie diplomatique. Dès lors que nos autorités estiment à un moment donné qu'il a enfreint les règles et qu'il a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, cette décision, elle va de soi. Mais je pense, en tout état de cause, qu'on aurait pu, effectivement, dans la forme, peut-être ne pas aller à l'expulsion qui peut paraître souvent violente à l'égard de la diplomatie. Le Burkina est un pays ami. Donc, quelque part, si un élément de la CEDEAO a fauté, on pouvait gérer ça effectivement dans un autre cadre, sans pour autant qu'on l'expulse manu militari, parce que persona non grata, ça veut dire que c'est très grave. Donc, de façon courtoise en diplomatie, on aurait pu effectivement inviter les autorités de la CEDEAO à le relever en douceur, sans vraiment aller à ça. Ça pourrait aussi faciliter un certain nombre de compréhensions et une mauvaise interprétation de la part de certaines personnes qui voudraient bien manipuler cette information.
Donc vous êtes d'accord avec la forme, avec le fond, mais pas avec la forme?
Pas que je ne suis pas d'accord avec la forme, mais c'est des possibilités en diplomatie. Quand on est en diplomatie, on peut taper fort. Si le message, c'est de dire aujourd'hui qu'il faut arrêter. Parce que moi, ce que je constate dans cette transition, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte réel. Qu'on comprenne d'abord que la transition n'est pas une période facile pour nos autorités et que c'est exceptionnel. Donc les différents acteurs doivent comprendre la mesure de notre transition et de respecter un certain nombre de normes qui mettent en péril la transition. Donc c'est le gouvernement qui peut apprécier de la posture qu'ils doivent avoir. Je fais juste une analyse pour dire qu'effectivement, dans la bonne courtoisie, on peut effectivement remercier Boly sans le donner 72 heures. Alors, comme aussi si les autorités estiment qu'il faut le donner 72 heures pour partir, ça veut dire que c'est très grave. Alors, ne tenant pas les détails du fond du dossier de ce qu'on lui reproche réellement, ben écoutez, c'est la primauté revient à l'État du Mali de prendre la décision de façon souveraine et c'est respectable.
D'accord, on va parler de la forme, Monsieur Doucouré. Est-ce que vous trouvez que le fait de déclarer un diplomate persona non grata qui voudrait dire qu'il est indésirable, est-ce que c'est trop fort?
Merci. Il y a deux volets à analyser. Le premier volet, c'est que si on s'en tient aux déclarations du gouvernement malien, c'est que oui, ils ont raison de le faire. Le deuxième volet, est-ce qu'ils ont usé tous les recours prédisposés, c'est-à-dire à avertir, à corriger ce manque de respect, c'est-à-dire aux lois de la République, avant de passer directement à l'expulsion. Mais on n'est pas dans le secret du diable, mais moi je pense que si... on a tous les éléments, on pourra apprécier clairement que voilà, donc ce que le gouvernement a posé, le fait de l'expliquer, c'était vraiment la voie de recours la plus plausible. D'ailleurs, ça fait partie des règlements, hein, des instruments internationaux à la matière, notamment la Convention de Vienne qui prévoit quand même des mesures dans ce sens-là.
Alors, dans le fond, le gouvernement dit qu'il a fait beaucoup de mise en garde à l'intéressé, mais également à sa hiérarchie. Alors, on aurait appris que l'intéressé était sur le point de quitter le territoire du Mali, d'après une interview que le ministre burkinabé des Affaires étrangères a accordée à un média, qu'ils étaient sur le point de changer de poste et que cette expulsion n'aurait même pas dû avoir lieu parce que l'intéressé allait quitter dans les heures qui suivent. Est-ce que on peut dire que les autorités maliennes ont mal réagi?
En fait, c'est ce que je dis, on n'est pas trop dans les détails parce qu'on ne connaît pas tous les éléments de cette affaire. Mais il se peut, si l'avertissement a été fait depuis longtemps et ça a pris beaucoup de temps avant le relèvement du diplomate, je pense que l'État peut être dans ses droits. Parce que je reviens sur le mécanisme, parce que quand on déploie un diplomate, ça dit qu'il faut se référer sur un mécanisme. Il y a un cadre réglementaire qui prévoit ça. L'article 9 de la Convention de Vienne de 61 qui en prévoit. S'il y a mise en garde et que il y a un délai aliénant qui dit d'ailleurs que ces rappels doivent être faits dans un délai raisonnable. Mais si l'État malien estime qu'il n'a pas été rappelé dans un délai raisonnable, moi je pense que de ce fait-là, peut-être l'État a raison. Mais encore une fois, du point de vue de conséquences, je pense qu'on va y arriver. Est-ce que tous les moyens qui étaient à la disposition du gouvernement ont été utilisés avant d'arriver à ce point? On va en parler sur ce point.
Oui. Bakabini Keïta, toujours dans le fond, les raisons évoquées par les autorités maliennes, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent justifier l'expulsion d'un diplomate?
Bon, d'abord, moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'entende aussi du mode d'analyse de la chose. Parce que je vois ici mes collègues, en tout cas mes amis, évoquer, procéder à ce qu'on pourrait appeler le dialisme. Bon, qui est un vieux principe qui remonte depuis l'Antiquité grecque, qui est d'origine philosophique, en séparant évidemment la forme du fond, et donc vous reprenez avec eux donc la même méthode. Mais je pense qu'il n'y a pas que cette seule méthode de lecture. On pourrait aussi dire qu'il n'y a pas de forme sans fond, et qu'il n'y a pas de fond sans forme. Et donc, autrement dit, donc on pourrait faire recours aussi à une autre méthode d'analyse qu'on pourrait appeler phénoménologie, et donc qui consiste plutôt à opposer au dialisme à ce que je pourrais appeler le monisme. C'est-à-dire que ne pas séparer effectivement le fond de la forme. Et donc, qui est aussi vieux, hein, c'est une vieille méthode, là aussi, ça remonte d'Aristote, depuis l'Antiquité grecque, aussi de la philosophie, repris plus tard par des hommes politiques, par des journalistes que vous êtes, etc. etc. Et donc, je pense que moi, je choisirais plutôt de dire que, au fond, le fond est dans la forme, et la forme également est dans le fond. Et si vous prenez, quelle autre information vous allez chercher lorsque un État et des autorités responsables écrivent à des organisations pour dire que vous avez votre représentant qui fait tel agissement, donc qui va en tout cas à l'encontre des intérêts de notre pays, Et je pense que si ces avertissements arrivaient à se répéter, et donc si des dispositions n'ont pas été prises, et à vous entendre, que je crois que le fait de le changer par un autre, c'était, comment dirais-je, quelque chose qui était prévu effectivement pour prendre en compte les remarques des autorités maliennes. Mais malheureusement, si entre-temps, il venait effectivement à poser d'autres actes plus graves que les précédents, je pense qu'on ne pourrait pas effectivement évoquer ici un manque de forme ou de, je ne sais pas, de fond. Donc je pense que nous avons déjà le fond, nous avons aussi déjà la forme, les deux vont ensemble. Et je crois que pour un pays responsable, surtout le contexte dans lequel le Mali se trouve, je crois que toutes les autorités responsables, quelques heures, nous venons d'assister, par exemple, si vous prenez le cas de la France, c'était dans un autre cas plus précis, lorsqu'ils se sont fait subtiliser un marché avec les Australiens par les Américains, les Français, je crois, ont rappelé leur ambassadeur, donc des États-Unis. Donc je crois que c'est des choses qu'on voit le plus souvent dans les relations diplomatiques. Je crois qu'aussi il y a une mauvaise définition aussi de la diplomatie. La diplomatie ne voudrait pas aussi dire qu'il faut, comment dirais-je, traiter tout dans la cuisine interne. Si vous êtes autorité, vous êtes autorité d'un pays, vous représentez un peuple. Donc vous avez le devoir aussi de dire la vérité, de communiquer avec effectivement votre peuple. Et donc je pense que nos responsables arrivaient à ce niveau de décision, ça veut dire que c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. On entend beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de je ne sais quoi par rapport à ça, mais je crois que elles avaient effectivement de bonnes raisons pour prendre cette décision.
D'accord, cela est bien compris. Nous avons posé la question à des Maliens, qu'est-ce qu'ils pensent de cette expulsion du diplomate burkinabé de la CEDEAO, et nous allons les écouter dans ce micro-trottoir.
Le représentant n'est pas venu par hasard. Pour moi, la manière par laquelle il a été expulsé ne m'a pas plu. Au lieu de faire ça, les autorités auraient demandé le départ de la MINUSMA.
Je crois que le Mali veut redorer son blason, la dignité, disons, diplomatique, si ça existe. Mais je crois qu'il va falloir que le Mali reprenne les rênes politiques comme il faut.
Je peux dire que les autorités ont pris une grande responsabilité dans cette affaire, mais nous risquerons de subir les conséquences.
Alors ça, ce sont les réactions de certains Maliens sur la question. Amadou Boly était représentant de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, dont le Mali est membre fondateur même. Est-ce qu'une telle décision des autorités maliennes ne risque pas de mettre en mal les rapports déjà tendus entre la CEDEAO et le Mali? Beaucoup.
Non, je ne pense pas que les rapports soient tendus entre la CEDEAO et le Mali. Outre mesure, je ne pense pas qu'une telle décision puisse en mettre en mal le Mali avec la CEDEAO.
Sur la gestion de la transition?
Non, la gestion de la transition n'est pas un problème. C'est un problème de discussion, d'achalandage et de compréhension des mécanismes en cours. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de conflit, jusqu'à preuve du contraire. Je pense que les autorités maliennes sont face à une réalité du terrain qui est dicté par les réalités du terrain, et une autre posture qui est de dire que la CEDEAO est dans la posture du protocole de bonne gouvernance et des accords de la période de transition. Donc je ne pense pas en réalité qu'il y ait rupture de ban. On est dans un dialogue constructif. Je pense bien que les Nations Unies ont même acté qu'effectivement ils ont été rassurés, ils ont écouté avec beaucoup d'intérêt les contraintes qui sont quand même objectives et réelles. Donc ceci étant dit, je ne pense pas que ça pose problème en réalité, parce que ça fait partie des mécanismes, comme il l'a rappelé tantôt, c'est des instruments de la diplomatie. Ce qu'on a dit, là où on a essayé de parler de forme et de fond, ce n'est pas une remise en cause de la forme ou du fond. C'est de dire justement que dans une courtoisie, dans une élégance, on peut passer outre. Cela étant dit, le fait de poser un acte dans le contexte qui est accepté par la diplomatie ne peut pas être une faute diplomatique en tant que telle. Donc je ne pense pas en réalité que cela aujourd'hui puisse poser problème. Le dialogue continue entre le Mali et la CEDEAO, ça n'a aucun rapport. C'est juste un élément de la CEDEAO qui a posé problème. Le Mali s'en est plaint et on l'a relevé. Le processus était en cours. nos autorités ont décidé de l'expulser en attendant que ce processus arrive à terme. Ça fait partie du processus normal et ça n'entame en rien le processus de dialogue et d'échange qui est entre le Mali et la CEDEAO. Ça n'a rien à voir.
D'accord. Monsieur Doucouré, êtes-vous d'accord avec Bokoum? Pas de tension à craindre suite à cette décision entre le Mali et la CEDEAO?
En tout cas, ça serait une mauvaise interprétation d'aller dans une dynamique de sanctions de la part de la CEDEAO. Je pense, comme je disais tantôt, c'est des instruments de la relation internationale de façon générale. Il se peut qu'un État mandataire peut, sans raison motivée, déclarer une personne non grata. Ça, c'est dans la convention. Donc, c'est le cas du Mali. Je pense que ça a été d'ailleurs motivé et que voilà, il y a eu des avertissements. Donc, si tout ça révèle vraiment vrai, je ne pense pas que voilà, la CEDEAO fasse quand même des sanctions, prenne des sanctions contre le Mali. Mais encore une fois, on ne sait pas. C'est là que je dis, parce que je dis sous réserve en fait, parce qu'on n'a pas tous les éléments. C'est de base, c'est des choses. Si réellement sa hiérarchie avait été avertie de tout ce qu'on le reproche et qu'il n'y a pas eu des mesures dans un délai raisonnable et que ça s'est passé comme ça, je ne pense pas que, voilà, qu'il puisse y avoir quand même des sanctions, le fait de faire. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est des dispositions de la Convention qui le dit. Un pays peut dire « je n'aime pas telle tête dans mon pays », mais est libre de justifier ou de ne pas justifier. Et si c'est justifié encore, je pense que c'est beaucoup plus protégeant pour le Tamalien de fait, parce que c'est dans la lettre du gouvernement. Je pense que c'est un secret de polissonnel. Et puis après, ça fait des tollés sur les réseaux sociaux, les gens qui seraient d'être témoins de certains actes, etc. Donc moi, je pense que si on s'en tient réellement, c'est-à-dire qu'aux dispositions réglementaires, je ne pense pas que le Mali puisse attendre à des sanctions. Et si c'est le cas, je pense qu'il y aura aussi des réactions appropriées et ça serait une violation d'un droit du Mali.
Alors, les accusations formulées à l'encontre de M. Boly sont graves quand même. Si elles sont avérées, est-ce qu'aujourd'hui ça ne ternit pas l'image de la CEDEAO?
En fait, je ne vais pas rentrer dans les débats politico-juridiques. CEDEAO est un cadre de rencontre de chefs d'État. Et
ouais, c'est un cas d'ingérence.
Mais je dis, c'est-à-dire, c'est formel. Hein. L'article 41 de la Convention le dit. Vous m'excusez de revenir sur ça parce que moi, en tant que juriste, ouais, il faut que j'ai un support quoi, pour argumenter. Et l'actualité recommande, cet après-midi, la Turquie, l'ambassadeur des États-Unis, quand la Turquie avait décidé d'expulser 10 ambassadeurs. Mais il y a un tweet de l'ambassade des États-Unis qui dit, ben, écoutez, qui a rappelé la teneur de l'article 41 de la Convention qui dit des diplomates ne doivent pas s'y mixer dans les affaires internes du pays. Donc, si tel est le cas, je pense que le Mali est dans sa vraie raison d'agir comme ça. Sinon, ça allait être trop tard et on allait encore se retrouver. Ben, écoutez, on avait beaucoup attendu pour réagir, en fait.
Alors, jusque-là, on n'a pas entendu de réaction de la part de la CEDEAO. Hein. Elle ne confirme pas ce que les autorités maliennes ont dit. M. Boly aussi, on ne l'a pas entendu. Je ne sais pas si on va même l'entendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si ces accusations-là sont vraies, Bakabini, faut-il craindre, au risque de me répéter, un bras de fer entre la CEDEAO et le Mali? Est-ce qu'il n'y aura pas une crise de confiance finalement?
Non, bon, je crois que si vous lisez la lettre des autorités maliennes, pour répondre en tout cas à les trois questions à la fois, d'abord, est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à ça? Est-ce que ça ne ternit pas l'image de la CEDEAO? Est-ce qu'il n'y aura pas un bras de fer entre le Mali et la CEDEAO? Je pense qu'on peut regrouper les trois questions en une seule même question. Et donc, en faisant ça, moi, je dirais tout simplement, référez-vous à la lettre qui est du ministre des Affaires étrangères du Mali, donc du gouvernement malien, si vous voulez. Donc, si vous lisez la lettre, c'est très clair. Ce n'est pas la CEDEAO qui est en cause dans la lettre. C'est lui qui est en cause, c'est bien entendu M. Boly.
Il représentait la CEDEAO.
Oui, il représentait la CEDEAO, mais le gouvernement malien a dit que nous avons averti. La CEDEAO a beaucoup de reprises. pour les agissements de M. Boly. Et donc, si la CEDAO n'a pas pris ses responsabilités à temps, ou en tout cas, si, je ne dis pas forcément parce qu'elle le voulait, mais tout simplement parce que peut-être pour des contraintes administratives ou pour des questions de procédure, de changement, de personnalité. Donc, ça peut être des choses liées à ça. Mais je pense que à ce stade, on pourrait vraiment pas parler de problème entre le Mali et la CEDAO dans cette affaire-là. Donc, le Mali ne remet pas la CEDAO en cause, encore moins le Burkina Faso, même si d'ailleurs, ce n'est pas le Burkina qui... On ne parle pas du Burkina Faso, on parle de la CEDAO. Il n'est pas là au Mali en tant que Burkinabé, il est là en tant que membre de la CEDAO. Et donc, s'il est là en tant que membre de la CEDAO, donc, je pense que les autorités maliennes sont claires. Ils sont prêts à coopérer avec la CEDAO. C'est une organisation à laquelle le Mali a souscrit volontairement. Et il peut aussi, à tout moment aussi, décider si les raisons sont là de partir. Mais c'est pas pour l'instant, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Les propos du gouvernement sont très clairs. Donc, ils ont réitéré leur volonté à travailler, en tout cas, avec la CEDAO. Donc, celui qui est en cause, c'est M. Boly. Ça n'affecte en rien, à mon avis. Il n'y aura pas de sanctions. En tout cas, moi, je ne m'attends pas de sanctions. Ceux qui veulent, en tout cas, faire peur aux Maliens en faisant croire que le ciel va tomber sur la tête des Maliens, le Mali, c'est un pays intérieur, le Mali est entouré par plusieurs pays de la CEDAO. Mais moi, je dis, mais écoutez, est-ce que vous... C'est-à-dire que si on essaie de voir les choses clairement, c'est quoi? C'est que, au fait, c'est vrai que même s'il y a des sanctions contre le Mali, c'est pas que le Mali qui va en souffrir. Le Mali est entouré par des pays de la CEDAO.
Je voulais préciser jusqu'ici, on n'a pas parlé de sanctions, on parlait juste de tensions. Est-ce qu'il y a un risque de tension?
Non, je dis, il n'y a pas de risque de tension. Voilà. Il n'y a pas de risque de tension. Donc, on ne pourrait vraiment pas parler de tension dans ce dossier-là.
D'accord. Monsieur Bokoum, crise de confiance. On entend, en tout cas, depuis cette décision, il y a certains Maliens même qui demandent à ce que le Mali suspende sa participation à la CEDAO. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise de confiance n'a pas atteint un certain niveau?
Non, je ne pense pas réellement. En réalité, il faut repositionner le Mali dans un contexte plus objectif et plus réel. C'est-à-dire, ce qui amène les gens à parler de cette façon, est souvent l'incompréhension que nous avons par rapport à l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis du Mali. Nous avons eu l'impression à un moment donné que les institutions, au lieu d'accompagner le Mali qui est dans une situation extrêmement difficile, dans laquelle nous cherchons des marques pour pouvoir sortir de cette crise, souvent nous avons l'impression que cette même communauté international outrepasse ses compétences et rentre dans autre chose. C'est ça toute la difficulté qu'il y a entre souvent la diplomatie malienne et les institutions qui sont logées chez nous. Et il n'y a pas plus de 72 heures que, je me rappelle bien, la MINUSMA aussi était interpellée par une affaire semblable par rapport à la société civile invitée par elle au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a des petites choses qui font que à un moment donné, les gens ils ont une sensation que la communauté internationale, au lieu de nous aider réellement, est en train de jouer à un autre jeu où ils ont un autre calendrier. Mais ceci étant, la sortie de la CEDAO ou des institutions, ce n'est pas comme ça que je pose réellement le problème. Le problème, c'est de dire aujourd'hui, le protocole de bonne gouvernance qui date de 2001, j'estime aujourd'hui que ce logiciel il est périmé. Il nécessite qu'on le revisite. L'Union africaine est une institution aujourd'hui que je trouve obsolète. La CEDAO et l'UMOA, je trouve qu'elles sont obsolètes. Donc, il y a des mécanismes qui ne fonctionnent pas bien, qui ne sont pas des choses qui prennent en compte réellement les aspirations du peuple malien. Je pense que la diplomatie est là pour recadrer et essayer de revisiter les mécanismes pour les mettre au goût du jour. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit à l'ordre du jour pour dire que nous sortons de ces institutions, parce que je ne vois pas de façon concrète le braquage en tant que tel de ces institutions. Mais si c'était le cas, je pense que nos autorités prendraient toutes leurs responsabilités.
Alors, Monsieur Doucouré, les populations maliennes, africaines, en tout cas ouest-africaines, en grande partie, commencent à douter de l'utilité, à s'interroger sur l'utilité d'une organisation comme la CEDAO. Est-ce qu'elle peut se refaire une bonne image?
Justement, je ferai un syllogisme. Autant le Mali a besoin de réformes profondes, pour s'élever, pour avancer devant, autant la CEDEAO et tous les autres instruments au niveau sous-régional et régional ont besoin d'être réformés. Je pense que même au niveau de l'Union africaine, je pense qu'il y a cette dynamique de réforme très profonde, c'est-à-dire qui est déjà entamée. Au niveau de la CEDEAO, c'est idem. En réalité, quand on lit les mécanismes, les instruments de la CEDEAO, ce qui date quand même des années, souvent on a l'impression qu'on n'est pas dans le même contexte, en fait. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il y a tant de reproches à ces instruments, à ce cadre de communautaire des États africains, aux besoins réels, c'est-à-dire de la population. Moi, je dis oui, il faut vraiment réformer et adapter la CEDEAO beaucoup plus à la réalité africaine aujourd'hui. On n'est plus dans la protection des frontières comme c'était l'idée principale de tous ces instruments. Aujourd'hui, on est dans la dynamique de démocratie, de développement. Je suis d'accord avec beaucoup sur la charte de bonne gouvernance, effectivement, qui a été adoptée il y a juste en 2001. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup. Mais ne voyez pas la CEDEAO, les réactions de la CEDEAO comme acerbes, en fait. C'est des principes qui sont là, c'est des grands principes qui sont dans ces instruments. En fait, quand il y a des réactions de non-respect, ils opposent, ça dit que ces principes-là. Mais ils ne sont pas, ça dit que ce n'est pas volontaire ou acerbe qui font ça. Mais
est-ce que vous êtes d'accord que ces principes ne tiennent plus, comme le dit Bokoum, par exemple, le protocole de bonne gouvernance?
Je donne un exemple, ça dit que les grands principes du protocole de la démocratie et de bonne gouvernance, les principes de convergence démocratique d'ailleurs, qui parle de principe de séparation des pouvoirs, qui parle aussi l'immunité parlementaire. Je pense que tous nos problèmes aussi résident à ça. Il y a une actualité, ça de quoi qui fait buzz aujourd'hui. Les gens évoquent question de l'immunité parlementaire. Moi, je pense que ça a été beaucoup plus préjudiciable dans certains pays faibles comme le nôtre aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre débat. Je pense que on peut faire le parallèle, mais du point de vue de la corruption, du point de vue de l'impunité, 60% est dû parce qu'il y a des immunités, parce qu'il y avait des hyper-hommes qu'on ne pouvait pas toucher. Effectivement, il y a de ces principes, il faut revoir et adapter à la réalité du peuple africain.
D'accord. Bakabini, les accusations qu'on formule contre le représentant de la CEDEAO, c'est par exemple qu'il aurait entrepris des actions avec des groupes, des individus, du monde, de la presse même. Mais c'est le représentant qu'on expulse. Il n'y a pas d'action, en tout cas on n'a pas encore vu d'action contre ces groupes ou ces individus. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures?
Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir, bon, pas négativement, mais positivement, à un certain nombre de points qui ont été soulignés par mes prédécesseurs. Je pense qu'effectivement, Doucouré a parlé effectivement de nécessité, je crois au même titre que beaucoup, de nécessité de réforme des principes. On pourrait effectivement parler de cette manière, mais je pense qu'il y a aussi une erreur d'appréciation même de la notion de principe. Parce que entendre les journalistes, entendre les hommes politiques, j'ai l'impression que les gens ont tendance à ramener le principe à un seul principe. Or, au fait, il y a trois types de principes. Il y a le principe de réalité, qui est le premier principe, qui tire son origine depuis l'Antiquité grecque avec Démocrite, et qui sera repris plus tard par Karl Marx. Bon, ça c'est donc le deuxième principe. Ça c'est le principe, si vous voulez, des textes, qu'on pourrait dire principe des idées. Ça aussi, ça remonte de Platon, depuis l'Antiquité grecque. Maintenant, il y a un troisième principe qui est le principe de l'adéquation entre les textes, les idées et la réalité. Ça c'est le troisième principe. Et ce principe-là remonte de l'Antiquité grecque encore avec Aristote. Et donc malheureusement, le plus souvent, lorsqu'on parle de principe, on fait taire les deux, si vous voulez, le premier et le dernier principe, et on fait prévaloir le deuxième principe, c'est-à-dire qui est celui des idées, qu'on pourrait traduire concrètement dans le langage des journalistes, dans le langage des hommes politiques, des juristes, qu'on pourrait traduire par les textes, les conventions, les accords et autres. Donc vous voyez. Et donc on brandisse les textes, on brandisse les lois, on brandisse en tenant pas compte de la réalité. Et donc en n'essayant pas de faire une adéquation entre la réalité. Ou le plus souvent, dans d'autres endroits, par exemple, quand vous prenez, je glisse un peu pour parler de ça, parce que c'est de cela qu'il est question, et très rapidement, quand vous prenez, par exemple, le coup d'État au Mali, le coup d'État, la prise du pouvoir par les militaires au Mali et la prise du pouvoir des militaires au Tchad, nous avons vu deux comportements de la France. La France fait prévaloir au Mali les textes sur la réalité, et par contre, au Tchad, elle fait prévaloir la réalité sur les textes. Et donc, vous voyez, donc, il y a aussi deux poids, deux mesures, souvent, dans le comportement, effectivement, des organisations internationales, de certains partenaires étrangers, qui ont aussi leur agenda, il faut se dire aussi cette triste réalité. Donc, la question, si vous voulez me rafraîchir la mémoire.
Alors, nous allons donner la parole à Boubacar Boukoum avant de revenir vers vous. Boubacar Boukoum, il y a eu, en tout cas, une convocation adressée au ministre, à la ambassadeur du Niger, suite à une sortie du ministre des Affaires étrangères de ce pays, l'ambassadeur de France également. Et aujourd'hui, on voit que c'est le représentant de la CEDEAO. Alors, peut-on parler d'une affirmation de la diplomatie malienne? Est-ce qu'elle commence à s'affirmer ou bien vous trouvez le contraire?
Non, je pense que c'est un bon signe. Ça montre
c'est un bon signe.
Bien entendu, c'est un bon signe parce que nous avons reproché à notre pays d'être très laxiste sur beaucoup de choses qui nous arrivaient et qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, qu'on ait une autorité qui s'exprime sur la question et qui prend des décisions qui vont dans ce sens, je pense que ça rassure. Mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin pour dire que la réaffirmation de notre souveraineté ne passe pas que par ces seuls aspects de la diplomatie. Parce que la vraie souveraineté, elle est d'abord fondamentalement économique. C'est-à-dire que un État qui dépend des subventions, qui dépend des dons, qui dépend des mécanismes du fonctionnement international à plus de 80% ne peut pas être un État réellement souverain. Comme il l'a dit, la réalité des principes et le terrain, c'est ce qui commande. Si le terrain voudrait bien qu'on soit à un état de pauvreté où on dépend quasiment de nos partenaires, cela pose problème. Donc je pense qu'il ne faut pas aller sur un seul levier. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui qu'on doit aller à un système de gouvernance qui va permettre d'avoir l'aspect économique, l'aspect du droit civil et l'aspect du droit administratif. Tous ces trois éléments doivent être combinés pour nous sortir de ces cadres. Donc, en réalité, aujourd'hui, que la diplomatie malienne imprime cette dynamique, la diplomatie, c'est le premier rempart d'un État par rapport aux autres. Donc, la souveraineté, elle s'affirme à partir de là. Donc, donner un message fort à nos concitoyens aujourd'hui pour dire que nous sommes un État souverain, je pense que c'est un réarmement moral.
Mais est-ce qu'on peut affirmer sa souveraineté sur le plan diplomatique quand on n'est pas souverain sur ces autres plans économiques?
Écoutez, il faut avoir de l'intelligence dans la diplomatie parce qu'il y a une forme d'interdépendance. Aucun État n'est en réalité souverain et prétend vivre en autarcie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit juste que chacun soit respecté comme tel dans le principe. Donc aujourd'hui, si l'État du Mali n'est pas respecté par un autre pays, alors que les principes voudraient que nous nous respections mutuellement, donc il faut apporter la riposte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc notre souveraineté ne veut pas dire que nous soyons recroquevillés sur nous-mêmes, refermés sur nous-mêmes et vivre en autarcie. Donc aujourd'hui, on est dans un monde de globalisation où on doit être d'accord avec les principes généraux et chaque État défend aussi ses intérêts. Donc les petits couacs peuvent venir du fait que nos intérêts peuvent être divergents de ceux de nos voisins ou de ceux de nos partenaires, mais c'est à nous de savoir bien défendre nos intérêts. Et ça, l'instrument diplomatique est un des éléments pour faire prévaloir nos intérêts. Mais je dis toujours que tout ça doit être adossé à une capacité de donner une réponse adéquate à la demande du citoyen qui, en réalité, elle est d'abord économique parce qu'il faut que les gens mangent, il faut que les gens soient en sécurité, il faut que les gens puissent bénéficier de façon juste et équitable de la distribution de la justice. Donc ces éléments sont tellement importants que pour avoir la paix, la stabilité et la sécurité, il faut que ces éléments soient mis ensemble. Donc il faut éviter de les dissocier et penser que de façon séquentielle, on peut résoudre une équation sans intégrer l'ensemble dans un système global. C'est pourquoi nous avons dit que cette crise, en réalité, elle est une crise globale, sécuritaire. On ne peut pas parler de crise du Nord, crise du Centre, crise du Sud. Il faut qu'on comprenne qu'elle est globale, sociale et sécuritaire.
Tout est lié. Donc, Monsieur Doucouré, on peut dire enfin que la diplomatie malienne se réveille avec ses actes?
En fait, tout le Malien, dans sa majorité, est content parce qu'il y a cette agressivité de la diplomatie. Mais c'est comme ça, en fait. C'est ça le rôle, son rôle premier, c'est-à-dire de faire.
Mais ça ne peut pas être un couteau à double tranchant.
En fait, on était habitué à une diplomatie de passivité. Même s'il y avait des questions d'intérêt national tout le temps, c'est des petites négociations, des jeux en catimini qui se passaient. On ne savait pas ce qui s'est passé. Mais je rappelle qu'il n'y a pas un pays puissant sans une diplomatie puissante. Il a rappelé, c'est-à-dire tout dépend de la force de la diplomatie, économiquement, militairement, sur tous les plans en fait. Je fais un parallèle pour donner l'exemple de ce qui s'est passé entre les Américains et la France. C'était des jeux de la diplomatie en fait, mais ça c'est profitable à qui? C'est profitable aux États-Unis. C'est des ventes, c'est des armements qui vont être vendus extra. Donc pour dire que effectivement ce qui se passe actuellement au Mali en termes de réaction, de proactivité, je pense que c'est ça le rôle premier d'une diplomatie. Le cas du Niger, c'est ce que le Niger a dit. Moi, je reviens sur la question des principes, en fait. Ça ne devait pas se faire dans une relation normale, dans un pays normal. Ça ne se fait pas. Il y a un cadre, un mécanisme de collaboration. C'est comme ce que la France aussi a fait. Et on est dans un cadre de la CEDEAO. Le Niger n'est pas à la tête de la CEDEAO. Comme après un sommet, sans le pays qui tient la tête, c'est un autre pays qui s'est dit, voilà, donc attends, je vais faire une déclaration pour me remettre le Mali à sa place. Je pense qu'on est tous animés de ce tact nationaliste. Ça, c'était choquant, franchement. Donc la lettre de la diplomatie malienne, je pense que c'était bien tombé. C'est comme ce que le Mali a fait aussi à la France. Et moi, je t'ai invité à un débat à l'époque. J'ai dit tout exactement comme ils l'ont fait. J'ai dit, ben, comment la France peut suspendre sa coopération alors que c'est un mécanisme qui est là. La France peut venir au Mali parce qu'il y a telle ou telle violation. Moi, je suspends ma coopération. Mais si unilatéralement, la France s'en va. Moi, j'ai rappelé à l'époque que c'était l'opportunité pour le Mali d'agir tout de suite sur ça. Mais je pense que le temps a donné raison. Et c'est un argument aujourd'hui que le Mali brande pour dire que le Mali l'a lâché, alors qu'il y avait des cadres réglementaires qui permettaient à la France de revenir, rappeler le Mali à l'ordre et puis à défaut repartir, mais ce n'était pas fait.
Alors, Bakabini Keïta, la CEDEAO est quand même très impliquée dans le suivi du processus de transition en cours dans notre pays. De telles actes, de telles décisions peuvent-elles impacter ce processus-là?
Bon, écoutez, moi je voudrais, comment dirais-je, revenir sur un certain nombre de choses, notamment la question que vous avez posée aux collègues, à savoir est-ce que c'est le réveil de la diplomatie du Mali, oui. Et quelles peuvent être les conséquences aussi de ce réveil-là pour notre pays. Donc je voudrais revenir à cette question. Moi je pense que c'est le développement d'un pays, je le reconnais avec beaucoup, qu'effectivement c'est l'économie, mais très vite il est revenu aussi pour dire, au fait, l'économie aussi, il y a une interdépendance entre l'économie aussi et la diplomatie, la politique, si vous voulez. Et donc si on va dans, moi je dirais beaucoup plus que ça. Parce que j'entends effectivement une certaine opinion qui consiste à dire que bon, il y a beaucoup de discours, mais qu'il n'y a pas d'acte au fait des autorités maliennes. Mmh. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est quand même aberrant de voir des spécialistes qui se disent analystes politiques et qui pourraient aussi dire que. Qui pourraient parler effectivement de la parole de cette manière en politique. Et, au fait, en politique. C'est le seul domaine, le domaine politique, c'est-à-dire quand je dis politique, le rapport des États entre eux, ou à l'intérieur d'un État, le rapport entre les citoyens et le pouvoir. Donc la politique est le seul domaine où la parole et l'action deviennent indissociables. C'est le seul domaine où on ne peut pas dire qu'il y a le discours d'une part et l'action de l'autre. C'est-à-dire que dans la politique, la parole prend elle-même la forme d'une action. La parole est une action. C'est-à-dire que si vous pouvez dissocier la feuille, c'est-à-dire le recto et le verso de la feuille, de la même manière en politique, vous pouvez dissocier le discours de l'action. Donc le discours de l'action sont indissociables. Je prends un exemple. Le discours politique, comme ce, ou en tout cas tous les actes que les Maliens, les autorités maliennes sont en train de poser, ce sont des actes, en termes de c'est des mots, mais ces mots-là peuvent brûler le pays. Mais en même temps, c'est des mots qui peuvent construire le pays. Donc ne dites pas, ne me dites pas que telle autorité ou tel pays est dans le discours, mais qu'il n'y a pas d'acte. Donc, au fond, les mots ont des effets.
Mais dans le contexte actuel, est-ce que les Maliens n'ont pas plus besoin d'actes? Est-ce qu'ils n'ont pas raison quand ils
mais
disent...
Mais je suis en train de vous dire que, ils l'ont dit avant moi, que c'est justement que c'est ce qui manquait au fait au Mali à un moment donné. Parce qu'il faut aussi dire que ce qui caractérise fondamentalement la politique, c'est-à-dire le rapport entre les États, c'est aussi le courage des autorités. Et finalement en place. Et donc ça veut dire aussi quoi? C'est un pays doit aussi être à mesure, à un moment donné de son histoire, prendre le risque effectivement pour les intérêts de ses concitoyens. Le discours que le PM a prononcé par exemple aux Nations Unies, la lettre qui vient d'être adressée à Comandrez, à la CEDAO pour demander effectivement à M. Boli de partir du Mali, on va dire que ce sont des mots. Mais ce sont des mots, mais c'est aussi des actions qui pourront effectivement contribuer à améliorer les conditions de vie des Maliens. Parce que le problème, c'est quoi? Les conditions de vie des Maliens sont prises en otage, effectivement, par ce courage politique qui n'existait pas. Donc le Mali était permanemment dans la compromission. D'accord. Donc nos autorités étaient dans la compromission et non dans la véritable politique. Donc c'est en ce moment que vraiment la politique commence à se faire jour au Mali.
D'accord, Boakar Boukoum, êtes-vous d'accord que de tels actes pourraient impacter, améliorer les conditions de vie? Est-ce que si des actes concrets ne suivent pas de telles décisions, est-ce que ça aura d'effet pour le citoyen lambda?
Écoutez, je pense que M. Keïta n'a pas dit qu'il ne faut pas d'action. C'est pas ça la problématique. Aujourd'hui, quand vous regardez le message...
Il dit que les gens disent qu'on parle plus qu'on nous pose d'actes. Mais je dis, est-ce que les Maliens, le Malien lambda n'a pas raison quand il pense aujourd'hui que...
Je vais en venir. Je voulais juste faire une petite boutade pour dire que, par exemple, par le passé, le griot pouvait déclencher une guerre ou finir une guerre juste par son message. C'est juste cette rhétorique que je retiens de l'expression que M. Keïta a voulu mettre en exergue. Mais au-delà de ça, en réalité... C'est vrai que le citoyen, il attend plus. Il attend des actions plus avancées. Donc là, on vient dans la question de la teneur, c'est-à-dire une évaluation qui permette de savoir l'objectif, il est atteint à quel cursus. Est-ce que aujourd'hui, si j'ai envie de manger, est-ce que j'ai les trois plats? Au départ, je n'avais pas trois plats, j'ai un plat. Est-ce qu'il ne faut pas deux? Est-ce qu'il ne faut pas trois? Donc je pense que c'est à ce niveau qu'on va aller à une forme d'évaluation. C'est là où, du politique, on attend effectivement que de la déclaration soit assortie et une planification cohérente adossé sur un mécanisme scientifique qui permette effectivement de savoir où on commence, où on va et comment on évolue et comment on peut évaluer le processus en tant que tel. Donc en réalité, ce que nous attendons des autorités réellement, c'est cette visibilité souvent. Effectivement, les mots, comme il l'a dit, ça peut jouer. Mais peut-être que les gens attendent plus que les mots, parce que si vous me dites que vous allez me donner à manger et que j'ai faim à midi, je ne vois pas le manger, éventuellement, je vais mettre en doute vos propos. En réalité, la rhétorique, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le Malien a besoin de quoi exactement? On a la sécurité qui pose problème. Ou on attend le gouvernement pour que... Aujourd'hui, on dit que c'est des officiers militaires qui sont au pouvoir. Donc, on calque la sécurité sur un axe strictement militaire. Donc, il y a une incompréhension à ce niveau. Le PM qui donne le gage de sortir le Mali de cette situation, on a envie de voir tout de suite les problèmes sociaux résolus d'une baguette magique, comme si le Mali pouvait créer de l'argent et donner à tous ceux qui demandent de l'argent, ainsi de suite. Donc, il y a un problème d'incompréhension globale. Donc, je pense que dans une pédagogie scientifique, on peut expliquer aux gens quels sont les mécanismes qui sont mis en place déjà pour créer la richesse et quels sont les mécanismes en place pour cette distribution de la richesse. Et je pense que si l'ensemble du peuple comprend cette dynamique, on va trouver plus d'accalmie dans les revendications sociales, dans la façon de distribuer la richesse et dans le mécanisme même de la stabilisation, parce que cette sécurité, elle n'est pas que militaire. Il faut d'autres éléments pour accompagner la guerre, pas seulement qu'on prenne des armes pour aller se battre. D'accord. Parce que le système aujourd'hui, il est plus complexe que
penser juste qu'il est strictement militaire. D'accord. Donc je pense que les colonels, ils sont à leur place et qu'on trouve des mécanismes pour les accompagner à mieux sécuriser notre pays.
D'accord, en 30 secondes, je le disais, la CEDEAO est opposée à une prolongation de la transition au Mali. Les autorités de la transition disent qu'il ne peut pas avoir d'élection tout de suite. Est-ce que de tels actes comme l'expulsion du représentant de la CEDEAO, est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous l'avez tous soutenu, la diplomatie est en train de se réveiller, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de là, le Mali va se faire respecter dans le concert des nations?
Non, je pense que déjà le Mali se fait respecter parce que tout le monde parle aujourd'hui du Mali et parle des actes que nous sommes en train de poser. Donc en réalité, je ne pense pas qu'il y ait une opposition de la CEDEAO par rapport à la prolongation. On n'a même pas parlé de prolongation pour l'instant. Je pense qu'on a parlé juste des contraintes qui sont là par rapport à l'exigence de la CEDEAO.
D'accord.
Et aujourd'hui, je pense que la CEDEAO a bien intégré ces réalités et je pense très sincèrement que le peuple malien va parler de tout ça aux assises.
D'accord.
Et on verra bien ce que ça va donner.
Rapidement, en 30 secondes, Monsieur Doucouré, désormais, est-ce qu'on peut s'attendre à une normalisation, à un respect de la voix du Mali dans le concert des nations ou bien ça pourrait donner l'effet contraire, cette décision?
Ce n'est pas une fin en soi, en fait. Mais moi, ce que moi je dis simplement par rapport à ça, c'est des actes forts, courageux et responsables que le gouvernement est en train de prendre. Il faut que ça soit accompagné par beaucoup plus d'autres moyens de relèvement, de résilience du peuple malien.
Sinon,
ça va être beaucoup plus dommageable. Le peuple va aussi, par la fin, retourner contre
d'accord.
le gouvernement.
D'accord. Pacabini, rapidement, en 30 secondes.
Oui, moi je dirais tout simplement, je reviens pour dire tout simplement que les mots ne sont pas que des mots, les mots sont aussi des actions parce qu'ils ont des effets sur les hommes. Mm-hmm. Seulement, je pense que le peuple malien doit un peu de patience. Je rejoins aussi beaucoup en disant que l'insécurité au Mali n'est pas que guerrière, mais l'insécurité au Mali, c'est aussi sociale.
D'accord, merci. Cela est bien compris et c'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue qui analysait aujourd'hui l'expulsion du représentant de la CEDEAO Amidou Boly par les autorités maliennes. Pour analyser, nous avions ici sur ce plateau Bakabini Keïta, analyste politique, Abdoulaye Doucouré, juriste, et Boubacar Boukoum, analyste politique. Cette émission a été réalisée dans le cadre du partenariat avec le programme d'engagement civique. C'était à la présentation Sekou Gadjigo, mise en nom de Salim Diouara, régie vidéo Gagny Kanté. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani
Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.